La Libre Antenne à suivre.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. On va parler du Sénégal, de la baisse des prix. On va parler de la Guinée également et de la mort dans des circonstances troubles de l'ex numéro 2 de la junte. On va parler des relations entre le Tchad et la République démocratique du Congo. Mais d'abord, pour commencer, des réactions sur Julian Assange. On en parlait juste avant le journal de Sébastien Duhamel. Arnaud, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Julian Assange, libre après 5 ans de détention au Royaume-Uni. Et vous disiez au Standard très heureux pour lui, très content pour lui.
Absolument, absolument content pour Julian Assange, content pour toutes ces personnes-là qui sont traquées inutilement, qui ne font que faire leur travail. Et on a tous, en tout cas moi particulièrement, et puis beaucoup de personnes dans le monde, ont particulièrement été peinés de voir Julian Assange poursuivi comme un vandale, alors qu'il n'a fait que révéler au grand monde tous les crimes de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Donc, généralement, les États-Unis se disent un pays de droit devait être content, devait être heureux de voir que des gens révèlent les crimes qui sont perpétrés et cela devait normalement les aider à encadrer les soldats pour que cela ne se répète plus.
Ouais, donc, vous saluez le courage. Vous avez employé le mot « soldat », c'est ça?
Oui, j'ai dit que Julian Assange a révélé les crimes des soldats américains.
Ah oui, des soldats américains en Irak, effectivement. Effectivement. En tout cas, vous saluez le courage, effectivement, des lanceurs d'alerte. Vous disiez au Standard avoir une pensée pour un autre lanceur d'alerte, Edward Snowden.
Oui, c'est ça. Edward Snowden qui, pour moi, véritablement est un héros que vraiment toutes les chansons occidentales devaient célébrer parce qu'il a mis à nu les écoutes téléphoniques de la NSA, notamment sur différents chefs d'État européens. Malheureusement, ces chefs d'État lui ont tourné le dos. Aujourd'hui, il est obligé de se réfugier en Russie. Il est obligé de se réfugier en Russie pour ne pas finir dans le goulag américain.
Ouais, aux États-Unis, il risque 30 ans de prison. Et effectivement, Edward Snowden a permis de porter à la connaissance de tout le monde, du grand public, que des chefs d'État, mais pas seulement, des millions de personnes étaient surveillées, étaient sur écoute par la NSA. Et il a fini donc par s'exiler en Russie. Il faut donc davantage protéger ces lanceurs d'alerte. Arnaud, un dernier mot ?
Oui, il faut les protéger parce que s'ils sont tous traités comme Julian Assange, comme Bradley Manning, qui est d'un Chelsea Manning, qu'on appelle Edward Snowden, les autres qui découvrent des choses, qui voient que ce monde avant marqué, qui voient que toutes ces grandes puissances-là font des choses qui sont contraires à l'éthique, qui ne font que prôner. Ça ne va que décourager des gens auront peur pour leur vie. Ouais. Et je salue leur courage, je salue tout ce qu'ils font pour que les informations parviennent à nous autres qui ne sommes pas dans les secrets des dieux. Et en tout cas, je leur souhaite bon vent et que tout soit libéré et reste seulement Edward Snowden, que les choses s'accélèrent de son côté parce qu'il allait en Russie et il n'a jamais voulu vendre tout ce qu'il appelle la NSA aux Russes. Voilà, donc je crois que ce qu'il est en train de faire, la même chose de pousser Snowden, si c'était les Russes qui poussaient comme ça, je pense que tous les chanteurs occidentaux seraient contre la Russie. Mais aujourd'hui, tout le monde se tait, tout le monde le regarde souffrir seul, et il n'a que la Russie pour l'aider. Ouais.
Voilà, donc, vous dites que si Assange et Snowden étaient russes, les Occidentaux les auraient applaudis et on aurait condamné le gouvernement russe, alors qu'ils sont américains et vous regrettez qu'ils ne soient pas davantage soutenus par la communauté internationale. Arnaud, je vous interromps. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée dans la capitale économique ivoirienne où il est 8h44. D'autres sujets, je vous le disais en préambule, un sujet qui fait énormément réagir, dont on parle beaucoup à Conakry, c'est la mort en détention de l'ex numéro 2 de la junte guinéenne, le colonel Sadiba Koulibaly. Bonjour Bankali.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Cancan.
Oui.
On vous écoute.
Ok. Bonjour Juan. Effectivement, le décès du général Sadiba Koulibaly ne laisse personne indifférent en Guinée. Et moi, je suis rentré à Cancan hier soir. Et voilà. Ce qui est embêtant dans les soirs, les circonstances restent vraiment... il faudrait que les autorités disent concrètement ce qui s'est passé.
Alors, selon le procureur militaire, il serait décédé suite à un arrêt cardiaque.
Exactement, exactement. Mais le décès serait survenu le 22. Et c'est seulement la nuit du 25 que cette déclaration est sortie. Mmh. Alors, pendant cette période-là de 48 heures-là, ils ont fait une autopsie et personne n'a été, comment dirais-je, associé à cette autopsie, ni les avocats de Sadiba, ni la famille de Sadiba. Mmh. Alors, comment se fait-il que cette autopsie peut être fiable sans associer quelqu'un de proche de la famille?
Le barreau de Conakry exige effectivement une enquête indépendante, puisque les avocats de Sadiba Koulibaly rejettent la version d'une mort naturelle, hein, puisqu'on parle d'arrêt cardiaque, qui aurait pu être imputable, dit-on, à un psychotraumatisme et un stress prolongé. Je rappelle tout de même que le colonel Sadiba Koulibaly avait été condamné quelques jours plus tôt à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes. Restez avec nous, Bankali. Bonjour, Lansana.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous souhaitiez également nous interpeller sur cette actualité.
Voilà, effectivement, vous le constatez aujourd'hui, nous sommes en pénurie, désert et constipation médiatique en Guinée. Et c'est vous qui nous apprenez même ce matin la restitution du corps à la famille. Et quelque chose que nous avons salué, effectivement, parce que là, le gouvernement a vraiment eu ce qu'on appelle la foi du bon samaritain, en restituant le corps. Mais au-delà de tout ça, là, Juan, est-ce que ce n'est pas un signal fort que le gouvernement lance aux opposants qui veulent rentrer aujourd'hui en Guinée?
Ah, je ne sais pas, vous me posez la question. Si vous la posez, si vous posez cette question, c'est que vous avez quand même un début de réponse.
Voilà, donc, en parenthèse, tout compte fait, aujourd'hui, Juan, n'oubliez pas qu'en tant que général de son statut, aujourd'hui, le général, il est parti. Mais nous pensons encore une fois que la gente doit avoir, partir au-delà, d'organiser, il ne reste que, au moins... Et une cérémonie de telle sorte, une manière d'accompagner ce grand général qui a loyalement servi ce pays.
Y a Mohamed dans le New Jersey qui nous dit « La mort de Koulibaly est très étrange. Je pense qu'on ne nous dit pas tout. On a besoin que la lumière soit faite car cette transition est, dit-il, de plus en plus louche. Vous souhaitez dire un dernier mot, Bankali ?
Justement, il y a un petit aspect là que je voudrais souligner. Mm-hmm. Le général Sadiba Koulibaly a été condamné à 5 ans, et rétrogradé.
Rétrogradé, parce que vous dites tous général, mais il a été rétrogradé.
Rétrogradé. Hein.
Colonel.
Et, bon, colonel. Et enfin, radié de l'effectif de l'armée. Mm. Alors, dans ce cas, si un tel monsieur décède, est-ce que, je ne sais pas, pourquoi ne pas restituer le corps à la famille ?
Ben ça a été fait, excusez-moi, Bankali, ça a été fait.
Oui,
à l'instant, Lansana vient de le dire.
Ça a été fait sous pression. Hmm. Ça a été fait sous pression, et combien de jours après le décès ? Voilà, donc...
À vous entendre, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Merci beaucoup, Bankali, de nous avoir appelé de Cancan. Je remercie Lansana, qui nous a contacté de Koba, également en Guinée. D'autres sujets dans la Libre Antenne, vous nous rejoignez évidemment au Standard et sur les réseaux sociaux. On va revenir sur la visite du président congolais, Félix Tshisekedi, à N'Djamena. Bonjour, Gérard.
Bonjour, Juan.
Bonjour
à tous les groupes de la RFI, ravi de participer pour la première
Alors,
fois
attendez.
À votre émission.
Alors première fois, très bien, je suis ravi de vous accueillir et vous êtes le bienvenu. Simplement, je vais vous demander une chose, Gérard, sortez d'où vous êtes, il y a énormément d'écho. D'accord ? Ah bah, attendez, bon, le temps que visiblement vous sortiez, on va essayer de vous retrouver évidemment très très vite. Si nous parlons du pouvoir d'achat, en tout cas celui des Sénégalais, on en a parlé d'ailleurs cette semaine avec l'entrée en vigueur de la baisse du prix de certains produits de première nécessité, une mesure évidemment très très attendue par les consommateurs, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye en avait parlé d'ailleurs dans son discours d'investiture en disant que ce serait une de ses priorités urgente. Avons-nous Jean-François peut-être non? Alors peut-être Assad.
Qui est
Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette baisse des prix, en êtes-vous satisfait en tant que consommateur? Je rappelle que ça concerne le sucre, le riz, l'huile ou encore la baguette de pain.
ministre, justement. C'est une très bonne chose, c'est une promesse de la campagne, de la coalition Diomaye, qui avait dans leur campagne promis de baisser les prix des denrées alimentaires. Bon, c'est vrai que sur le terrain, on le dit,
oui.
Le prix du pain a diminué de 25 francs, ce qui est bénéfique, ce qui augmente le pouvoir d'achat. Et moi, j'aurais proposé qu'ils aillent encore plus loin, s'ils veulent que la baisse des denrées ait l'impact significatif sur le pouvoir d'achat sénégalais, que les autorités étatiques aillent plus loin. En diminuant, par exemple, le prix des loyers et en s'attaquant aussi aux frais scolaires des enfants.
Ah. D'accord. Donc baisser le prix des loyers, mais excusez-moi, il me semble, hein, je dis ça de mémoire, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, Jean-François, que les autorités précédentes, en l'occurrence Macky Sall, avaient bloqué le prix des loyers. Il y avait même une loi qui était entrée en vigueur, non ?
Ils l'ont même fait deux fois. Une première
ils l'ont fait deux fois, alors.
Deux fois, mais ça n'a pas marché. Franchement, il n'y avait pas de suivi, donc ça a été du n'importe quoi. Au contraire, les prix ont flambé.
Ah oui.
C'est ça, malheureusement. Ouais, malheureusement
et là, pour les produits alimentaires, donc visiblement, ça fonctionne, ça marche, mais il faut que ça fonctionne sur la durée. Parce que là, ouais. On n'en est qu'au cinquième jour, aujourd'hui, de la baisse des prix.
Oui, heureusement qu'ils ont pris les choses, les nouvelles autorités ont déjà pris les choses en marche. Ils ont embauché 1000 agents volontaires qui vont sillonner le pays pour vérifier les prix.
Effectivement, c'est vrai que les boutiques sont contrôlées. Il y a des agents de la direction régionale du commerce et des volontaires qui sillonnent les boutiques pour s'assurer que la baisse est bel et bien respectée. Hassan est avec nous également sur la baisse des prix. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à l'ouest du Sénégal.
Oui, effectivement.
Très bien. Vous aussi, vous constatez la baisse des prix ?
Oui, bien sûr, on a constaté la baisse des prix, oui. Par exemple, la baguette de pain qui coûtait 175 francs est maintenant à 150 francs.
Oui.
Ça se fait remarquer maintenant au niveau de beaucoup de boutiques maintenant. Nous attendons tout simplement à ce que vraiment... la mesure soit plus respectée. D'ailleurs, on a mis en place un numéro vert, c'est-à-dire le 880-77-77.
Alors attendez, 880-77-77, je le note au passage, ça peut toujours servir, pour dénoncer les commerçants qui ne respectent pas la baisse des prix.
Très bien, oui, c'est ça, effectivement, oui.
D'accord. Ouais. Et donc, alors, est-ce que le prix de la baguette a bel et bien baissé ? Qu'en est-il du sucre ? Est-ce que vous êtes allé acheter récemment du sucre ou de l'huile cette semaine ?
En toute sincérité, moi, je n'ai pas allé acheter de l'huile, mais j'ai acheté le pain à 150 francs.
D'accord. Et c'est suffisant, cette baisse de 25 francs CFA la baguette ?
Bien sûr, c'est suffisant, mais nous attendons à ce que maintenant, le gouvernement pose un deuxième pas, parce que les Sénégalais doivent sentir maintenant cette baisse au niveau de leur poche, vraiment.
Oui.
Nous remercions aussi vraiment le président de la République. Vraiment, nous le remercions pour ses efforts consentis pour faciliter maintenant le quotidien des Sénégalais. Et nous lançons un appel à tous les commerçants maintenant à respecter quand même ces mesures. D'ailleurs, aussi nous lançons aussi les populations maintenant à prendre aussi ce numéro vert pour dénoncer maintenant tous ceux ou celles qui ne respectent pas cette mesure.
Bon, en tout cas, la volonté des autorités, c'est qu'elle soit respectée, puisque tout le monde a en tête que cette initiative avait également été lancée sous le président Macky Sall, et au final, très peu de consommateurs sénégalais avaient bénéficié de la baisse, puisqu'elle n'était pas respectée par les commerçants. Merci Hassan de votre témoignage, merci également à Jean-François. Bonne journée à tous les deux. 33 9 693 693 70. Bernard veut nous parler football. Eh bien, on va parler football.
Oui.
Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Visiblement.
Ravi de participer pour la première fois.
Ah bah écoutez, ravi de faire votre connaissance Bernard. Vous êtes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et visiblement, quand je vois la petite fiche qui me vient du standard, j'ai l'impression que vous passez vos soirées devant la télévision, ou à écouter RFI, parce que vous suivez l'Euro 2024, mais comme personne ne peut le suivre, hein, puisque vous avez un point de vue sur tous les matchs disputés lors de la phase de groupe.
Oui, je trouve que l'Euro de cette année n'est pas du tout emballé, elle est ennuyante, elle n'est pas prolifique en termes de buts. Des grandes nations déçoivent par leur jeu, les grandes stars ne sont pas au rendez-vous à l'instar de Mbappé, tellement imbibé ce penalty.
Ouais. Alors Mbappé, excusez-moi Mbappé, excusez-le, Mbappé c'est quand même a quand même été blessé, il s'est cassé le nez.
Il était blessé, mais au premier match, il n'était pas au rendez-vous, c'est ça.
Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été au rendez-vous au premier match. Bon, ensuite, il a été blessé. Ensuite, il a marqué quand même un but. Il a marqué un but, certes, vous allez me dire, c'est un penalty.
Oui, c'est un penalty, c'est pas du tout ce qu'on attend de lui. Et Lukaku qui est meilleur buteur de hors-jeu selon la VAR. Donc, ils ne sont pas au rendez-vous, les grands stars.
Ouais. Donc, la France n'est pas au rendez-vous, l'Angleterre n'est pas au rendez-vous, la Belgique n'est pas au rendez-vous. L'Espagne, elle est au rendez-vous, quand même. Pardon ?
Il n'y a que trois équipes qui sortent du lot. Il y a l'Espagne qui produit quand même un bon jeu.
Ah bah, quand même. L'Espagne,
l'Allemagne.
L'Espagne, excusez-moi.
Le Portugal.
Ouais. Mais l'Espagne produit, à mon avis, le meilleur jeu pour l'instant, en phase de groupe. Hein.
Oui, oui.
Ouais.
Les autres, en tout cas, déçoivent.
Bon, les autres déçoivent. Bon, Bernard, vous allez continuer à regarder et à suivre la compétition quand même.
Espérons peut-être pour le huitième de finale que ça va changer, je pense.
Ouais, bon, le huitième de finale à suivre, en ce qui nous concerne, nous, c'est tous, mais il y a quand même le France-Belgique. Ce sera lundi à 16h temps universel. Bon, Bernard, bonne journée.
Merci, bon week-end à tous les auditeurs.
À bientôt. Et rappelez quand vous le voulez, c'était une première, ça s'est bien passé. On va parler des tensions entre le Bénin et le Niger. C'est vrai que vous avez été nombreux tout au long de la semaine et vous l'êtes encore ce matin à réagir à ces relations qui se sont considérablement dégradées entre Cotonou et Niamey depuis le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Ça fait quasiment un an que la frontière entre les deux pays est fermée. Bonjour Bachir.
Bonjour.
Vous êtes à Tawa, c'est bien ça ?
Bien sûr, je suis à Ottawa.
À Ottawa, très bien. Vous souhaitiez justement nous interpeller, car vous êtes, allez, disons-le, optimiste sur une sortie de crise prochaine.
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit, je suis vraiment optimiste par rapport à une sortie de crise de cette situation. Déjà, la venue des deux présidents du Bénin nous réconforte, et le fait qu'ils ont passé plus de 3 heures avec le chef de l'État, ça augure vraiment de bonnes choses.
Ouais. C'est vrai qu'ils se sont longuement entretenus. Hein. 3h30 a duré la discussion entre les deux anciens présidents béninois, Nissé Forsoglo et Boni Yayi, et le général Tiani. En même temps, certes, ça a été long, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, hein, puisqu'il n'y a pas eu de communiqué à l'issue de cette rencontre.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de communiqué. Mais je pense que le fait qu'ils ont pris tout ce temps-là, ils ont pris le temps de vraiment faire le point de toutes les situations. Et vraiment, on espère bien qu'une sortie de crise sera trouvée.
Vous comprenez, vous, Bachir, les raisons invoquées par vos autorités pour justifier la fermeture de la frontière ? Les autorités qui invoquent des raisons, les autorités invoquent des raisons sécuritaires.
Oui, c'est vrai, il y a des raisons sécuritaires, comme le Premier ministre l'a expliqué, comme le gouvernement l'a expliqué. Maintenant, je pense que tout cela va être étudié. Et pour trouver vraiment un terrain d'entente, parce que l'aspect sécuritaire est très important.
Ouais, mais l'aspect sécuritaire, c'est de dire qu'il y a des militaires français de l'autre côté au Bénin qui s'entraîneraient, qui seraient là pour essayer de déstabiliser le pouvoir à Niamey. Vous y croyez, vous ?
Oui, effectivement, si le gouvernement le dit, c'est que nous y croyons. Donc c'est pourquoi il est vraiment important de trouver un terrain d'entente.
Ouais, si le gouvernement le dit, donc c'est vrai, c'est ce que vous disiez, Bachir.
Bien sûr. Ouais. Ils ont des informations que nous n'avons pas.
Oui, enfin, cette version a été plusieurs fois démentie par les autorités béninoises. Hein.
Oui, ils l'ont démentie, mais nous nous en tenons à ce que notre gouvernement dit. Mmh. Voilà. Bon. Oui.
Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Bachir, et puis bon, désolé, il y avait un ou deux autres Béninois qui souhaitaient prendre la parole sur ce sujet, mais on aura l'occasion d'y revenir très vite. Merci à tous, c'était passionnant, c'est toujours un plaisir de discuter, dialoguer avec vous tous. On sera de retour lundi avec vos questions à la rédaction, et puis en deuxième partie, vous pourrez commenter les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France. Le Rassemblement National est donné en tête dans les intentions de vote. Comment réagissez-vous à la percée de l'extrême droite ? On en parle donc lundi matin.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission « Appel sur l'actualité ».